Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information au sommaire ce soir. La voie diplomatique à l'œuvre dans la crise ukrainienne. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine d'accord pour un cessez-le-feu. Le président français et le président russe sont également convenus lors de leur entretien d'intensifier les efforts diplomatiques. La diplomatie continue, mais sur le terrain en Ukraine, la tension reste forte. Les ressortissants français quittent l'Ukraine à contre-cœur, comme David, le représentant des Français, il est installé à Kiev.
J'ai déjà mon vol de retour et je compte bien l'utiliser. Et si je ne peux pas revenir en avion, je prendrai une voiture. Ma vie est ici. Je ne peux pas croire que le pays sera à feu et à sang, non. Et même, je reviendrai, c'est certain.
La politique ce dimanche et le couperet des parrainages qui sème l'inquiétude chez plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Marine Le Pen alerte sur une situation terrifiante. Dans ce journal également, une vive émotion suscitée par un accident de chasse hier dans le Cantal. Une randonneuse de 25 ans tuée lors d'une battue au sanglier. L'auteur du tir mortel, une adolescente de 17 ans, est en garde à vue. La tempête Franklin, une réplique de la tempête Eunice, attendue ce soir dans le nord de la France. 4 départements en vigilance orange, le trafic TER arrêté dans les Hauts-de-France, circulation des trains perturbée également en Normandie, les prévisions complètes de Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal. Et puis Aurel San qui retrouve la scène à Caen pour son premier concert à la maison mardi prochain. Vos rendez-vous dès 19h, la page sport avec au programme le clap de fin aux Jeux Olympiques de Pékin, du football avec la Ligue 1 et du rugby avec le top 14. C'est mon actu, notre rendez-vous du dimanche 19h avec Sandrine Houdin, micro ouvert ce soir à Sandra qui attend le salon de l'agriculture avec impatience. À 10h30, les petits bateaux, Noël Bréhan.
Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 9 ans. J'aimerais bien savoir si les petits-enfants égyptiens allaient à l'école comme nous. Merci.
Noël Bréhan, les petits bateaux, après ce journal.
France Inter.
Pour la première fois depuis plusieurs jours, la tension semble baisser d'un cran en Ukraine. Une porte s'est ouverte sur la diplomatie lors d'une conversation ce matin entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. France et Russie se sont dit d'accord sur la nécessité de privilégier une solution diplomatique à la crise ukrainienne. Et une réunion extraordinaire sous l'égide de l'OSCE va se tenir demain pour obtenir un cessez-le-feu. Dans le même temps, selon l'Élysée, Moscou, qui accuse les Ukrainiens d'être à l'origine de l'escalade, a l'intention de retirer ses troupes de Biélorussie. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir.
Ce soir, la diplomatie est à l'œuvre et c'est possible.
Oui, même s'il faut rester prudent, on a quand même l'impression que les efforts diplomatiques commencent à produire leurs effets. Les entretiens entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont permis d'avancer sur plusieurs points qui évidemment restent à consolider. Les deux présidents ont convenu de mener toutes les actions utiles pour aboutir à un cessez-le-feu sur la ligne de contact dans le Donbass, la région séparatiste ukrainienne. Une réunion est prévue demain à l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Il y aura aussi une reprise des discussions dans le cadre du format Normandie qui regroupe l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine. Enfin, le président russe s'est engagé à retirer ses troupes actuellement en manœuvre en Biélorussie. Des manœuvres qui, a-t-il dit à Emmanuel Macron, n'ont pas vocation à être permanentes, même si tout cela devra être vérifié, dit-on à l'Elysée. Au final, l'objectif est d'obtenir plus de sécurité pour l'Ukraine et de donner des garanties à la Russie, résume un diplomate français qui conclut, philosophe, chaque jour sans qu'il y ait la guerre est un jour gagné pour la paix.
Alors dans le même temps, Christian, le président américain Joe Biden, qui a multiplié ces derniers jours des déclarations très alarmantes, indique ce soir qu'il est prêt à rencontrer Vladimir Poutine à tout moment.
Oui, et qu'importe le format, si cela permet d'éviter la guerre, a fait savoir son chef de la diplomatie, Anthony Blinken. Le changement de ton du côté américain est palpable ce soir. Depuis plusieurs jours, Washington prédit une guerre que Vladimir Poutine aurait déjà décidée et planifiée. Anthony Blinken répète désormais que la voie diplomatique était encore possible jusqu'à ce que les chars soient réellement en mouvement et les avions dans les airs, selon son expression.
Christian Chéneau, merci. Et en Ukraine, à Kiev, une partie de la population redoute toujours ce soir une attaque russe. Hier, l'Allemagne et la France ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine et plusieurs Français ont décidé de suivre les recommandations du gouvernement. La mort dans l'âme. Reportage à Kiev, Eric Bigala.
Les expatriés, ceux qui travaillent en Ukraine et notamment ceux qui avaient de la famille sur place, ont déjà renvoyé les leurs vers la France et depuis longtemps. Mais pour les Français qui sont installés ici, ceux qui ont fait leur vie, le départ est beaucoup plus difficile. Comme l'explique David Franck, marié à une Ukrainienne, il est aussi le représentant élu des Français d'Ukraine. Lui part ce soir, la mort dans l'âme.
J'avais un vol prévu mardi
Et comme les vols s'arrêtent mardi, j'ai ma femme qui m'a dit de changer pour prendre un vol dimanche soir. Je pars avec mon fils, ma femme reste. On a prévu, si la situation s'aggravait encore, qu'elle prenne la voiture et qu'elle aille vers la Pologne. Je vais pas vous mentir, c'est très difficile, très, mais c'est notre choix. J'ai déjà mon vol de retour et je compte bien l'utiliser. Et si je peux pas revenir en avion, je prendrai une voiture. Ma vie est ici. Je ne peux pas croire que le pays sera à feu et à sang. Non. Et même, je reviendrai. C'est certain. J'ai rien à faire en France. Et ça, c'est des choses compliquées à comprendre, même pour ma famille en France. Ma vie est ici.
Il y a environ 1000 Français enregistrés en Ukraine auprès des services consulaires. Il en resterait environ 500. Des personnes installées ici, souvent des couples franco-ukrainiens. Beaucoup resteront. Kiev, Eric Biegala, France Inter.
Et puis concernant la candidature en attente d'Emmanuel Macron, la crise en Ukraine semble freiner l'annonce de candidature du président. Selon un conseiller, Emmanuel Macron ne se déclarera pas candidat à la présidentielle avant la semaine du 28 février. Et la politique, ce dimanche, les préoccupations et les inquiétudes de certains autres candidats tournent autour du couperet des parrainages. Marine Le Pen, invitée à la mi-journée de questions politiques sur France Inter, a alerté sur ces difficulté à recueillir les 500 signatures nécessaires pour se présenter à 12 jours de la date limite fixée par le Conseil constitutionnel. Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, affirme n'avoir jamais été aussi inquiète.
Nous n'avons pas les parrainages. C'est une situation qui, démocratiquement, est terrifiante. Je suis extrêmement inquiète parce que je m'aperçois que beaucoup de candidats sont dans la même situation que moi. C'est-à-dire que le réservoir s'est totalement asséché. Pourquoi ? Parce que les maires, depuis des décennies, disent « ce système ne fonctionne pas » et que personne au pouvoir n'a voulu le changer. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il me manque une cinquantaine de parrainages. J'appelle tous les maires qui trouveraient inouï, scandaleux, gravissime, que quelqu'un qui a été au second tour de l'élection présidentielle et qui peut gagner cette élection en 2022 ne puisse pas, pour des raisons administratives, être présente dans cette compétition électorale.
Marine Le Pen dans Question politique avec Thomas Snegaroff. L'actualité en France, c'est également ce drame dans le Cantal et cet accident de chasse particulièrement effroyable hier dans la commune de Cassagnouz. Une randonneuse, une jeune femme de 25 ans, a été tuée par une balle perdue lors d'une battue au sanglier. Elle marchait sur un sentier balisé. L'auteur du coup de feu mortel est une chasseuse plus jeune encore, une adolescente de 17 ans. Elle a été placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte par le procureur d'Aurillac. Enquête confiée à la gendarmerie. Les précisions, Mathilde Lemaire.
La jeune chasseuse de 17 ans était hier en état de choc après la mort de la randonneuse. C'est pourquoi elle n'a été placée en garde à vue que ce matin. Garde à vue pour homicide involontaire. Elle est soupçonnée d'avoir tiré la balle mortelle au cours d'une battue au sanglier organisée par l'association de chasse de la commune. Même si elle est mineure, la chasseuse a plus de 16 ans. Sa garde à vue peut donc durer 24 heures, voire être prolongée de 24 heures encore. On sait déjà qu'elle a été testée négative aux stupéfiants et à l'alcool. Les enquêteurs doivent déterminer si son permis de chasse était bien en règle. Il peut être délivré à partir de 16 ans. Si les panneaux annonçant la battue étaient en nombre suffisant et bien disposés, dès hier après-midi, des techniciens de l'identité criminelle se sont rendus dans ce sous-bois pour opérer tous les relevés nécessaires sur ce sentier pédestre balisé. Une autopsie de la victime a aussi été ordonnée. Cette jeune randonneuse qui se trouvait là avec son compagnon a été touchée sur la partie gauche du corps. Elle semble être morte sur le coup. Les secours arrivés très vite en hélicoptère n'ont pu la ranimer.
Hommage et tristesse immense aujourd'hui à Saint-Laurent-de-la-Salanque dans les Pyrénées-Orientales. Plus de 2500 personnes ont participé à une marche blanche pour exprimer leur solidarité aux victimes de l'incendie meurtrier qui a dévasté 3 immeubles du village lundi dernier. 8 victimes, dont un bébé et un enfant de 2 ans. Reportage à Saint-Laurent-de-la-Salanque, Margot Caroff, France Bleu Roussillon.
Dans un cortège serré et silencieux, les habitants de la commune marchent en mémoire des victimes. Un moment important et douloureux pour Jessica.
J'ai beaucoup de peine pour ces gens-là. J'ai énormément de peine pour eux et c'est injuste ce qui est arrivé, c'est horrible. En plus, j'ai senti la déflagration de chez moi. Ça a été très perturbant de voir tout ça.
Nadine, elle est venue soutenir un ami qui a dû être relogé suite à l'incendie.
Mon ami a perdu que du matériel, donc c'est rien par rapport aux familles qui ont perdu des bébés. C'était l'immeuble juste collé à l'immeuble qui a pris feu.
Des ballons, des fleurs et des photos sont déposés devant la barrière qui bloque la zone sinistrée. À quelques pas de là, une famille entière a péri dans l'incendie. Face à la foule, la grand-mère d'une des victimes prend la parole.
Vous êtes une famille aujourd'hui. C'est comme ça qu'on fait la différence entre qu'on est dans le malheur. Merci beaucoup d'être là. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup.
Très ému, lui aussi, le maire Alain Gaud s'adresse au cortège.
Je tenais à vous remercier personnellement de votre présence. Nous avions besoin de ça, car aujourd'hui, Saint-Laurent est touché dans son cœur.
À la fin de la marche blanche, une file d'attente se forme pour signer le cahier de condoléances. Plus de 12 000 euros ont aussi été récoltés par la mairie pour venir en aide aux victimes et aux sinistrés.
La tempête Franklin, une réplique de la tempête Eunice, va à partir de ce soir balayer le nord de la France. 4 départements, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime sont placés en vigilance orange au vent violent. De très fortes rafales avec des pointes possibles à 130 km/h sont redoutées. Depuis 19h, la SNCF a suspendu le trafic TER sur tout le littoral des Hauts-de-France. La circulation des trains sera encore très perturbée demain et ce soir, la circulation des trains est aussi perturbée en nord. Normandie. À La Réunion, l'alerte est rouge à l'approche du cyclone Emnati. Depuis une heure maintenant, les habitants sont appelés à se confiner. Personne ne doit rester dehors, indique le préfet de La Réunion. Emnati continue de se renforcer, nous dit Météo France. Un cyclone tropical intense à moins de 400 km des côtes et qui va continuer de se rapprocher tout doucement. On a appris la mort du biologiste François Gros, co-découvreur de l'ARN messager. François Gros a participé à toutes les aventures de la biologie moderne. Sa contribution au décryptage du gène a été capitale et il a ouvert la voie, près de 60 ans plus tard, à l'utilisation de l'ARN messager dans les principaux vaccins utilisés contre le Covid-19. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
François Gros, c'était un nom de la biologie, il avait 85 ans.
Oui, et pourtant dans ses mémoires scientifiques, ce chercheur qui a contribué à la naissance de la biologie moléculaire raconte qu'il s'est inscrit à la fac de sciences de Toulouse par erreur, pensant être dans la file pour la fac de médecine. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le jeune biochimiste rejoint la Sorbonne et fait ses débuts comme bénévole à l'Institut Pasteur qu'il dirigera par la suite à la fin des années 70. Mais c'est aux États-Unis en 1960 à l'université Harvard que François Gros parvient à mettre pour la première fois en évidence les ARN messagers, ces molécules chargées, comme leur nom l'indique, d'être des messagers, de transmettre les informations de notre code génétique ADN pour fabriquer les protéines nécessaires au fonctionnement de nos cellules. Au même moment, sur la côte ouest des États-Unis, 3 autres chercheurs, dont le biologiste français François Jacob, feront la même découverte. Leurs travaux ouvrent la voie au vaccin à ARN messager, une révolution médicale désormais bien connue du grand public avec les vaccins contre la Covid Pfizer et Moderna.
Sandy Dauphin, merci. Quand, en Normandie, à la sauce, Orelsan, le rappeur qui fait la fierté de la ville, retrouve la scène mardi prochain pour son premier concert à la maison, à Caen, dans un zénith plein à craquer. Les places se sont vendues en moins de 2 heures. Orelsan, qui vient de remporter 3 victoires de la musique, tenait à démarrer sa tournée chez lui. Caen et la Normandie, c'est là-bas que tout a commencé pour l'artiste. Il y a grandi, lancé sa carrière et aujourd'hui, ses plus grands fans sont sans doute les Normands, à commencer par les habitants du village où Orelsan s'est installé il y a quelques années. Reportage à Gérard Mohamed.
C'est dans ce village de 1600 habitants entre Caen et Aromanches qu'Orelsan s'est installé il y a quelques années, une commune dont on taira le nom.
C'est pas un grand secret, mais c'est un tout petit secret.
Jean-Luc Verret, le maire, veut ainsi préserver la tranquillité de l'artiste, même si ce dernier n'hésite pas lui-même à montrer le village dans l'un de ses derniers clips.
On en rira quand on verra sous un jour meilleur jour.
Et tout le monde en est très fier ici.
On voit le skatepark, on voit la plage où il va se baigner, les rues où il se promène en patin à roulettes, en vélo. Il va manger au petit resto du coin.
Le petit resto du coin, le seul dans la commune, est tenu par Sonia et sa mère Brigitte.
Moi, c'est pas Orelsan, c'est Aurélien. Je dis bonjour Aurélien. Ah, il est très simple. La première fois qu'il est venu manger au restaurant, il avait mangé un pot-au-feu.
Annick, elle, n'a pas choisi le pot-au-feu pour ce repas, mais une belle assiette de fruits de mer. Orelsan, elle apprécie beaucoup, même si à son âge, cette cliente l'avoue, elle n'est pas une grande fan de rap.
78 ans.
Et vous avez acheté le dernier album d'Orelsan ?
Oui, parce qu'il a du talent, c'est un fait. Moi, je le compare, pour notre âge, un peu à Renaud, mais dans les temps modernes.
Et tous les habitants ici saluent Orelsan, l'enfant du pays, qui, malgré le succès, reste fidèle à sa Normandie.
Voilà, Orelsan, premier concert à Caen, mardi. 19h14 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Frédéric.
Et d'abord le clap de fin sur les JO d'hiver à Pékin.
Avec aujourd'hui la cérémonie de clôture, comme pour l'ouverture des Jeux. Cela s'est passé au stade olympique qui avait servi aux Jeux d'été en 2008. Le fameux nid d'oiseau où vous avez assisté Sébastien Berriot à une cérémonie très sobre.
C'est une cérémonie simple que la Chine a organisée pour la clôture de ces Jeux d'hiver. Cérémonie à l'image de ces JO, sans grand public dans les gradins. Seulement des invités, environ 20 000 personnes, alors que le nid d'oiseau a une capacité de 80 000 places. Ce qui n'a pas empêché les spectateurs de vibrer, notamment pour saluer les athlètes chinois, troisième au tableau des médailles. Cérémonie aussi à l'image de la nouvelle société chinoise voulue par le régime communiste, sans star system. Spectacle donc sans chanteur ou acteurs professionnels, mais avec plusieurs milliers d'acteurs anonymes, étudiants, lycéens, collégiens, issus de Pékin et de la province du Hebei, là où se sont déroulées les compétitions. Quelques effets spéciaux sur un écran géant au sol de près de 12 000 mètres carrés. Puis le président du CIO a remercié la Chine pour l'organisation de ces Jeux qui se sont déroulés dans de bonnes conditions sanitaires. La cérémonie s'est terminée avec le passage de relais à Milan et Cortina d'Ampezzo qui organiseront les prochains Jeux Olympiques d'hiver.
Mesdames et messieurs, la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 touche à sa fin. Ensemble, pour un avenir commun, bonne soirée à toutes et à tous.
Merci Sébastien Berriot.
Et dans cette cérémonie, un athlète français mis en avant, le porte-drapeau Quentin Fillon-Maillet.
C'est le plus titré des tricolores dans ces Jeux d'hiver. Le biathlète y a remporté 5 médailles, 2 en or, 3 en argent. Il a été désigné pour porter le drapeau français dans cette cérémonie de clôture. Et il a vécu un moment unique, comme il nous l'a précisé à la sortie tout à l'heure.
C'est extraordinaire. Je me disais, pendant que je portais le drapeau, je me dis, je vis quand même des moments qui sont incroyables parce que quand j'étais petit, je rêvais des Jeux Olympiques et tout ça. Mais voilà, porter le drapeau à la fin des Jeux Olympiques, c'est dire déjà que mes Jeux sont réussis et puis je représente la France. Puis autant être porte-drapeau sur la cérémonie d'ouverture, c'est un peu plus de responsabilité parce que on se doit de faire des médailles. Hein. Et donc, le fait de faire la fermeture, c'était juste du pur bonheur, sans aucune pression. J'ai profité un maximum. Ça permet de finir en beauté ces Jeux Olympiques avec une belle cérémonie. Par rapport au jeu de Pyeongchang qui avait été pour moi plutôt compliqué, là je vis pleinement le rêve olympique à 100% avec tout ce qui va, les médailles, la cérémonie et l'atmosphère qui va avec.
Voilà le héros Quentin Fillon-Maillet que vous avez pu joindre Jean-Pierre Bimou cet après-midi. Alors au tableau des médailles, la France pointe à la 10e position dans un classement dominé par la Norvège.
Et oui, les Norvégiens forts de 37 médailles dont 16 en or dominent l'Allemagne et la Chine. La France donc 10e sur 20 sur 29, hein, se situe presque dans le premier tiers. L'ensemble de la délégation française rapporte 14 médailles de Pékin, 5 en or, 7 en argent et 2 en bronze.
Il y a ceux qui gagnent des médailles et puis il y a ceux qui ne gagnent pas.
Et cela quitte la Chine très touchée par ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux. Cela peut aller jusqu'à des messages de haine et d'insultes. La skieuse américaine Michaela Schifrin a été l'une des principales victimes, Guillaume Batin.
Prends ta retraite, tu tiens pas la pression, blonde idiote et pleureuse. Agacée, elle a enregistré une vidéo pour leur répondre.
Racontez ce que vous voulez. J'ai un sens de l'humour beaucoup plus développé que ce que vous imaginez. Alors laissez tomber.
Le Français Alexis Pinturo, meilleur skieur du monde la saison dernière, a lui aussi complètement raté ses JO.
On en a tout le temps, ça peut être même sur des commentaires, sur des articles. En fait, on apprend avec le temps à faire complètement abstraction de tout ça. La méchanceté, on le sait depuis longtemps, elle est facile sur Internet. Les gens se cachent derrière des pseudos. Le sport est toujours fait de haut, de bas. Et ça, ben, ça nous apprend aussi à persévérer, à nous rendre meilleurs, à aller plus loin, plus haut.
Le phénomène n'est pas nouveau, mais ces JO 2022 atteignent des sommets. Fabien Saguez, le directeur technique national de la Fédération française de ski.
On a remarqué que sur ces Jeux olympiques, il y avait quand même un bashing très fort sur les réseaux sociaux. On essaye de travailler en amont avec eux pour essayer de leur dire que pendant les Jeux, il faut éviter de trop regarder les réseaux sociaux.
La championne olympique de ski de boss à Pyeongchang, Perrine Laffont, est repartie sans médaille de Pékin. Elle a apporté son soutien à l'américaine Michaela Schifrin. Nathalie Péchala, la présidente de la Fédération française des sports de glace, en profite pour appeler à la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. À Pékin, Guillaume Batin, France Inter.
Et les prochains Jeux d'hiver auront lieu en Italie dans 4 ans à Milan et Cortina d'Ampezzo.
Du football à présent, la 25e journée a connu un coup de tonnerre hier soir à Nantes.
Une victoire de Nantes face au Paris Saint-Germain, 3 buts à 1. Les Nantais qui menaient 3-0 à la mi-temps. Un entraîneur nantais, Antoine Comboiré, très fier de son équipe, qu'il avait sauvé de justesse l'an dernier de la relégation des Canaries, qui doivent devenir une formation capable de regarder à nouveau vers le haut, à condition de poursuivre les efforts accomplis, a dit Antoine Comboiré.
C'est le travail que vous mettez à l'entraînement, mais après, encore faut-il réussir sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en avant la performance des joueurs. Nous, on rêve de choses, mais les joueurs, ils vont sur le terrain et ils font ce qu'il faut. Et ils sont énormes, énormes, énormes. Voilà. Il faut dire quand ils ne sont pas bons. L'année dernière, on se vautrait tous les week-ends, donc c'est compliqué. Mais là, ce qu'ils sont en train de montrer, c'est que voilà, ce sont des grands joueurs et puis c'est une belle équipe. Il faut que ça continue au niveau de la régularité dans le travail. Quoi. C'est ce que j'attends d'eux. On croit en eux. Moi, je crois très fort donc à ce groupe. Voilà. Et moi, je voulais surtout qu'on ait envie donc, de faire un grand match.
Antoine Comboiré, l'entraîneur du FC Nantes, qui renaît donc avec une position dans le premier tiers du championnat au micro de Florian Cazes de la France Bleu Loire-Océan. La 25e journée s'achève ce soir, Frédéric, 20h45. Marseille reçoit Clermont. Marseille qui veut conforter sa deuxième place, d'autant que Nice a battu Angers 1-0 cet après-midi et talonne les Marseillais à un point derrière. Et puis après les résultats du jour, sachez qu'il y a 4 équipes qui partagent la dernière place, 3 Lorient, Metz et Bordeaux, 21 points chacun.
Le top 14 de rugby, Jean-Pierre, que se passe-t-il au Stade Toulousain?
En tout cas, c'est inédit depuis la création du top 14 en 2005. Toulouse a enchaîné 6 défaites en championnat, la dernière à Pau hier soir. Toulouse n'a plus gagné depuis 86 jours. Avec cette spirale infernale, le champion de France en titre a grandement fragilisé sa place dans le top 6 et va devoir cravacher pour être au rendez-vous des phases finales en fin de saison. Il y a donc urgence, alerte Thomas Ramos, l'un des joueurs toulousains.
C'est pas de notre niveau de basculer du mauvais côté, en tout cas, ça manquait de respect à personne, on n'a pas le droit de basculer du mauvais côté. On a toujours un match de retard à la maison, qu'il faudra gagner cette fois-ci. On reçoit Bordeaux la semaine prochaine, tout le monde est conscient que tous les matchs à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la saison, la défaite à la maison est interdite et sera interdite, et ensuite il va falloir aller prendre des points partout. Donc aujourd'hui le message c'est ça quoi.
Thomas Ramos, l'un des joueurs du Stade Toulousain, donc bien mal en point.
Toulouse qui pleure, Bordeaux qui rit.
Oui, l'Union Bordeaux-Bègles et son entraîneur Christophe Furios, leader du top 14, vont tenter d'aligner une 13e victoire en 18 matchs. C'est le contraire pour les Bordelais. Ce sera ce soir à domicile face au Racing 92 qui vient d'aligner 4 victoires de suite. Et puis ce sera certainement un retour qui va faire parler dans le tennis en début de semaine. Novak Djokovic, numéro 1 mondial, va lancer sa saison au tournoi de Dubaï un mois après avoir été refoulé, souvenez-vous Frédéric, de l'Open d'Australie. La raison, c'est qu'il n'était pas vacciné contre le Covid.
Eh bien, on regardera le tournoi de Dubaï.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre la page agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient, avec d'abord la campagne pour l'élection présidentielle qui reprend après un léger faux pas ce week-end, notamment en nombre de meetings. À noter demain, lundi, le grand oral des candidats sur leurs programmes économiques devant le MEDEF, et mardi, le temps fort de la campagne a lieu sur France Inter avec une journée spéciale jeunes et notamment un face-à-face entre tous les candidats et 100 jeunes issus de toute la France. À noter aussi sur l'agenda pour demain lundi, le début de l'allègement du protocole sanitaire dans les écoles pour les élèves de la zone B qui rentrent de vacances, et avec notamment la fin du port du masque dans la cour de récréation dans les écoles élémentaires. Sur l'agenda international, hors crise en Ukraine et les réunions diplomatiques toute la semaine pour parvenir à un cessez-le-feu. À noter lundi ou mardi, on ne sait pas très bien, aux États-Unis, le lancement de l'application pour téléphone mobile du nouveau réseau social de Donald Trump. Sur l'agenda parlementaire, la date à retenir, c'est mercredi, et l'adoption définitive par les députés de la proposition de loi allongeant le délai de l'IVG. Que doit changer ce texte, Anne Orenstein?
Eh bien, au lieu de 12 semaines de grossesse, les femmes auront désormais 14 semaines pour avoir recours à l'avortement. Actuellement, entre 2 et 4 000 patientes sont contraintes de se rendre à l'étranger, notamment en Espagne, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, pour pratiquer une IVG parce qu'elles sont hors délai. Et c'est souvent parce qu'elles n'ont pas eu accès à un établissement de santé pour faire cet avortement, notamment dès qu'elles dépassent les 10 semaines de grossesse. Autre changement apporté par ce texte, la suppression du délai de réflexion de 2 jours. Le délai du recours à l'IVG médicamenteuse en ville, qui sera également allongée à 7 semaines de grossesse contre 5 jusqu'ici. C'était en fait déjà le cas depuis avril 2020 à cause de la crise sanitaire, mais là ça va être pérennisé. En revanche, la clause de conscience spécifique à l'IVG qui permet aux médecins ou aux sages-femmes de refuser de pratiquer un tel acte ne sera pas supprimée comme c'était prévu dans le texte initial.
Et on terminera la semaine vendredi soir en tout cas avec la 47e cérémonie des Césars du cinéma à Paris. L'actualité la semaine prochaine, c'est aussi le retour du salon de l'agriculture après 2 ans d'absence écourté en 2020, annulé l'an dernier pour cause de Covid. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes à Paris, porte de Versailles à partir de samedi. Les grandes retrouvailles avec les animaux, ils seront près de 4000. Le salon de l'agriculture attire toujours beaucoup de monde, 650 000 visiteurs environ à chaque édition. C'est mon actu, Sandrine Houdin a rencontré Sandra. Elle travaille au Versailles à Issy-les-Moulineaux, un restaurant qui jouxte le parc des expositions. Et pour Sandra, le salon de l'agriculture, c'est une fête des rencontres, des produits du terroir, une parenthèse qui fait du bien. Tous les soirs dans son restaurant, Sandra sert les exposants et pour elle, c'est du
bonheur. Grand bonheur.
Pourquoi bonheur ?
Parce que c'est le salon de la France, c'est différents accents, les accents de la France, différentes régions viennent, les Savoyards chantent, les Corses chantent, les Basques chantent, c'est juste fantastique. Au sein de la brasserie, c'est juste génial.
Top 10, les meilleurs.
Tous, les Corses nous amènent leur saucisson corse, les Basques nous amènent leur piment d'Espelette. Non, c'est juste fantastique.
Ils disent, ce sont nos vacances. Pour vous, quelque part, est-ce que quelque part, c'est un peu des vacances ?
Complètement. C'est un peu, en quelque sorte, effectivement, des vacances, un petit peu. Je me souviens quand on a fait, il y a eu la bandasque au sein de la brasserie, tout l'orchestre basque, donc les trompettes, les gens qui se mettaient par terre.
Pourquoi par terre ?
Ben en fait, ils se mettent par terre et ils soulèvent un de leurs camarades, ils le font passer de bras en bras.
Je présume que vous faites un petit peu de repos avant, parce que j'imagine même pas à quelle heure vous finissez. Non ?
On finit très tard, mais en fait, on est tellement content qu'on n'a pas besoin de repos. C'est juste génial.
Un café, s'il vous plaît.
Ce qui me fait du bien, c'est de retrouver aussi les gens de ma région, Auvergne, parce que même si ça fait 28 ans que je suis à Paris, je suis auvergnate à la base, et retrouver les gens de ma région, ça me fait du bien.
Ah oui, en plus.
Et puis parce que les gens semblent heureux, ça fait du bien de revoir des sourires. C'est vrai qu'à Paris, ça fait 2 ans que l'ambiance est plutôt morose. Il nous a manqué de voir des gens qui sont heureux et qui font la fête. Donc ce salon de l'agriculture va nous faire du bien.
À la limite, vous comptez les jours.
Carrément, on compte les jours, oui.
Voilà le salon de l'agriculture jusqu'au 6 mars à Paris. C'est mon actu, Sandra, avec Sandrine Houdin. Un rappel important pour le Livre Inter, amoureux des livres, écrivez-nous pour devenir juré du Livre Inter présidé cette année par Delphine de Vigan. Écrivez-nous vite sur franceinter.fr ou par courrier France Inter, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, Cedex 16. Et vous avez jusqu'à lundi prochain, le 28 février, pas demain, lundi dans une semaine. Au générique de cette édition, Gilles Gaillard et Laurent Baudouin en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assisté de Rachid Zourdani et Sébastien Donat. Un grand, grand merci à l'équipe et à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
Il faudra patienter jusqu'à mercredi pour retrouver le soleil et un temps calme généralisé. D'ici là, pluie, averse et vent turbulent vont faire la une. À partir de ce soir et jusqu'en première partie de nuit prochaine, le vent va se renforcer jusqu'à 110 km à l'heure sur le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime, placés en vigilance orange entre 20h et 1h du matin. Et sur les régions limitrophes, les rafales seront également vives, y compris sur le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Demain, le vent va rester turbulent vers 90 km à l'heure en général, 100 sur la région PACA et dans le golfe du Lion, 110 sur les Alpes et les Pyrénées et au moins 120 sur la Corse, avec un ciel serein sur le bassin méditerranéen, mais beaucoup plus changeant ailleurs et porteur d'averses avec de la neige sur tous les massifs à moyenne altitude, avec des cumuls de neige importants sur les Alpes du Nord, le tout dans les températures loin des gelées la nuit et confortable pour la saison en journée.
Jean-Michel Golinski de Météo France.